PMU.fr est fier de soutenir Vue du Banc. Parce que pour bien parier, il faut bien comprendre le jeu.
Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 5 de Vue du Banc. Un épisode qui va être consacré à ce qui s'est passé cette semaine en Ligue 1. On était au stade avec Raphaël du côté du Parc des Princes, moi à Bordeaux, où j'ai pu voir notamment le LOSC. Christophe, lui, est en Allemagne et il vit des aventures qui l'ont poussé quand même à aller jusqu'à l'Allianz Arena voir le Bayern,
oui.
Voir le Bayern jouer. Mais voilà, puisque vous venez de l'entendre, Raphaël Cosmidis, salut.
Salut Florent.
Et donc oui, on va pas s'étendre sur les aventures de Christophe.
Non, il les racontera dès son retour.
Voilà, il les racontera, ça lui fera sans doute des anecdotes. Et puis le fait d'avoir vu Renato Sanchez, il aura peut-être des choses à dire. Mais bref, nous on va rester sur la Ligue 1, semaine chargée, puisque vu qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, la Ligue a trouvé le moyen d'ajouter une journée de Ligue 1 cette semaine. Donc ça fait 4-5 jours maintenant qu'on a la tête dedans. Et toi du coup, hier t'étais au stade pour PSG Reims, tu as vu donc la belle victoire du PSG après l'ouverture du score de Reims, avec une grosse réaction assez rapide quand même avec l'égalisation de Cavani, et tu as surtout retenu la réussite de Neymar dans le cœur du jeu, puisqu'on l'avait vu dans le cœur du jeu sur un autre match, je crois cette saison, un peu plus tôt, je ne sais plus lequel, mais quand on changeait beaucoup.
Il me semble qu'il avait joué dans l'axe derrière Cavani et Mbappé. Et là, la différence de ça, c'était plus un 4-2-3-1 avec la suspension de Mbappé, évidemment. Di Maria qui était sur le banc. Il y avait Diaby à gauche, Draxler à droite et Cavani en pointe. Alors, Tuchel a dit que Diaby à gauche, Draxler à droite, c'était parce qu'il voulait attaquer comme ça contre Reims. Je pense aussi que c'est pour donner de l'espace à Neymar, parce que si tu mets des mecs en faux pied sur les côtés, forcément, ils vont revenir à l'intérieur et ça va refermer cet espace. Mais j'ai trouvé ça très intéressant de voir Neymar dans l'axe. C'est un peu un des gros enjeux du nouveau règne de Tuchel, et d'ailleurs il l'a évoqué dès qu'il était arrivé en juin, en juillet, c'est il faut qu'on arrive à le mettre dans les meilleures conditions et surtout arrêter un peu ces décrochages incessants dont on avait parlé plusieurs fois la saison dernière, Flo, où ça venait réclamer le ballon dans les pieds. Mais c'était pas forcément que de sa faute à Neymar, parce qu'il n'y avait pas forcément une animation offensive qui était assez bien construite du côté du PSG à l'époque d'Emery pour qu'il puisse se retrouver entre les lignes. Et là par contre, sur ce match-là, il l'a souvent été dans le dos des milieux adverses, et il le fait plutôt bien, il crée la plupart des occasions parisiennes. Là, je regardais ses stats d'occasions créées, je crois qu'il est à 3 et que sur les dribbles, il est à 6 réussis. Alors, il y a toujours du déchet, il y a toujours des moments où tu sens qu'il va chercher 2, 3, 4 fautes de suite en 4 minutes pour montrer aux adversaires sa supériorité, mais par contre, il est beaucoup plus vite dans le sens du jeu et beaucoup plus facilement. Parce qu'à l'époque où il jouait ailier gauche et Cavani dans l'axe, il avait besoin de trouver un appui, tu sais, un peu comme Messi le faisait avec Suarez ou avec d'autres attaquants, où il s'appuie, il revient demander avec un 1-2 à l'intérieur. Avec Cavani, tu pouvais pas le faire. Et finalement, Neymar était obligé de dribbler 2, 3, 4 joueurs avant de se retrouver dans l'axe et d'ouvrir sur un partenaire à l'opposé. Là, il a pas besoin, il contrôle, il se met dans le sens du jeu quand il reçoit entre les lignes, et directement, il peut ouvrir vers un joueur qui arrive lancé, que ce soit un latéral ou un ailier. J'ai trouvé ça très prometteur et je pense que cette évolution, elle mettra un terme assez vite au fait de le voir jouer vraiment aile gauche comme le faisait un peu Emery ou moitié gauche du terrain, quand il a plus de liberté, qu'il peut venir se retrouver dans l'axe. Et notamment sa relation avec Verratti, c'est beaucoup plus intéressant.
Ouais, on va en parler de sa relation avec Verratti, mais là en l'occurrence, ce que tu nous dis par rapport au fait qu'il cherchait un appui avant à l'intérieur, en l'occurrence aujourd'hui c'est lui l'appui désormais.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est lui l'appui, et puis il y a d'autres qui viennent à l'intérieur l'aider un peu quand il a besoin de soutien.
Alors moi il y a quelque chose que j'ai noté sur les derniers matchs de Neymar, et notamment ça m'a marqué face à Liverpool quand j'ai revu le match après. Alors certes il rate beaucoup de choses, notamment sur les transitions, etc., ou des passes mal ajustées, mais malgré tout j'ai l'impression qu'on rentre peut-être, alors c'est peut-être une vision optimiste des choses, en fait je suis passé de l'un à l'autre très rapidement, où il y a quelques matchs quand je voyais Neymar jouer je me disais mais il fait plus rien sur le terrain,
c'est-à-dire surtout le tout début de saison où Mbappé le laissait un peu dans l'ombre aussi,
ouais, voilà. Mais voilà, il tente plus grand chose, il accélère beaucoup moins. Je sais pas si tu te rappelles son premier match l'année dernière, quand on avait parlé de ses débuts face à Toulouse, on disait qu'il accélérait tout le temps le jeu, etc.
Et même, je crois que c'est contre Guingamp, tu sais, où il y a l'extérieur là, un des premiers matchs qu'il fait. Je crois que c'est le premier match qu'il fait à l'extérieur. Il me semble que c'est Pélissier qui en parlait, qui disait ouais, Neymar il arrive en Ligue 1, il joue à Guingamp, il pourrait, tu vois, se contenter du minimum. Et il avait fait un match énorme en termes d'intensité et de participation au jeu.
Voilà. Et là, j'ai l'impression que, il y a quelques semaines, j'avais l'impression qu'il avait perdu ça. Et en fait, je me demande s'il rentre pas dans une phase, où justement il est en train d'épurer au maximum son jeu. Par contre, dès qu'il fait un truc, le jeu progresse, mais très très vite. Moi, j'ai souvenir par exemple de l'occasion de Draxler pour Paris, la balle de 3-2 en fin de match. C'est lui qui fait une ouverture, mais je pense qu'au PSG, à part peut-être Verratti, il n'y a que lui qui peut la faire.
Oh là, c'est pareil, il a une créativité telle que tu sais, dans les surfaces de pied qu'il utilise pour créer des passes, ça me fait penser un peu à Modric, où en fait, même si tu fermes l'angle de passe qui est le plus évident pour un droitier, il va trouver autre chose à faire. Et plusieurs fois, comme ça, il crée des passes dans la profondeur.
Mais là-dessus, et là, quand je vois par exemple ses stats sur le match d'hier, il finit quand même à 67 passes tentées, non 80 passes tentées, 67 réussies. Donc évidemment, il y a un peu de déchets parce qu'il y a beaucoup de passes qui essayent de faire des différences et de faire progresser le jeu. Mais surtout, la majorité de ses passes sont tentées dans le dernier tiers. Ouais. Donc il y a aussi quelque chose qui change par rapport aux autres matchs, et notamment au match précédent où on l'avait vu en 4-2-3-1. Et je sais plus si c'était Guingamp ou si c'était un autre, ça va peut-être me revenir récemment. Mais en l'occurrence, là, il est resté beaucoup plus haut sur le terrain. Il a beaucoup moins décroché, j'ai l'impression. Moi, j'étais pas au stade, donc j'ai pas vu le match. Mais j'ai l'impression, oui, qu'en effet, il a joué beaucoup plus haut. Et ça, notamment, tu l'évoquais tout à l'heure, vite fait, c'est sa relation avec Verratti qui a beaucoup aidé. Un petit peu comme du côté de Liverpool, Di Maria lui avait donné, je crois, 19 ballons pour lui permettre de... Enfin, pour éviter qu'il ait à décrocher. Aujourd'hui, enfin, sur le match d'hier, c'est Verratti qui a permis cela. Et quand on regarde d'ailleurs les stats... de Verratti et surtout les stats de les combinaisons de passes à Neymar, donc les ballons donnés à Neymar, qui en a donné le plus, et t'as Verratti qui lui en a donné 37 sur le match, alors que le deuxième c'est Nsoki qui est à 12 et ensuite Thiago Silva à 11. Donc c'est clair qu'il y avait une relation assez privilégiée entre les deux, et l'objectif de Verratti c'était clairement d'alimenter son numéro 10.
Et tu sentais que parfois c'était un peu forcé, tu sais, où enfin tout le monde voyait que la passe allait venir intérieure, il l'a tenté quand même, mais Neymar a une telle qualité de première touche qu'il s'en sortait. Mais t'as évoqué Di Maria, ce qui est encore mieux avec Verratti qui est droitier qui joue à droite, c'est qu'en fait t'as une passe diagonale beaucoup plus simple, où Neymar, quand il reçoit le ballon de la zone où évolue Verratti le plus souvent, en une touche il se peut mettre dans le sens du jeu. Alors que quand Di Maria gauche et à gauche jouait avec Neymar, c'était plus compliqué, tu vois, parce que t'avais des passes moins évidentes à faire. Là, Verratti cache très bien ses passes, il a même servi Draxler plusieurs fois à l'intérieur. Il arrive à les masquer, il fait toujours semblant de jouer vers le latéral et puis il finit par refermer sa cheville et jouer à l'intérieur. Ça, c'est super intéressant. Et ce que tu as dit sur Neymar, par contre, tu vois, sur le côté moins de déchets, c'est vrai, mais c'est vraiment par séquence, tu vois, où il y a 15 minutes où il va être dans une démarche collective et il va comprendre que voilà, c'est ça que je dois faire, c'est ça que je dois apporter à mon équipe. Et puis dès qu'il sent que l'écart est fait, par exemple là, après le quatrième but, je crois que c'est lui, il y participe où il y a une action, il crée quelque chose. Derrière, il sent qu'en face, c'est trop faible pour lui. Et pendant 10-15 minutes, il va tenter de dribbler tout le monde. Ouais. Mais vraiment. Et il va le réussir, parce qu'une fois sur deux, il est beaucoup trop fort pour l'adversaire. Là, à un moment, il dribble deux adversaires d'un coup en multipliant 5-6 dribbles à la suite. Enfin, c'est beaucoup trop fort, mais il y a des moments de déconcentration. Et dans le même match, quand le PSG marque et prend le dessus sur Reims, il y a des moments où il s'est mis à défendre comme un chien. Donc j'ai l'impression que tu sais, ce côté émotif qu'il a, c'est vraiment... Si Tuchel arrive à gérer ça... Ça va transformer ton équipe.
Et juste pour revenir rapidement sur ce que tu disais par rapport à Verratti et la fameuse diagonale, en plus ce genre de diagonale-là, du coup de l'axial droit jusqu'au numéro 10 ou alors sur l'ailier qui rentrerait à l'intérieur, c'est les diagonales qu'adore Tuchel. Si les gens ont vu le passage de Tuchel sur RMC Sport avec notre cher Julien Momont, c'est d'ailleurs une vidéo qu'on vous recommande, voilà. On voit que ce genre de diagonale, c'est le genre de choses qu'il apprécie. On les voyait aussi se dessiner en tout début de saison, dans le 4-3-3 de Tuchel en tout début de saison, où quand tu avais notamment des passes verticales depuis Kimpembe jusqu'à Nkunku. Nkunku jouait très bien le relayeur droit qui va chercher un peu plus haut et qui va proposer dans le dos des milieux adverses. Et ça s'était dessiné plusieurs fois et ça avait plutôt bien marché. Donc voilà, une diagonale de plus à l'intérieur du jeu entre Verratti et Neymar. Et c'est sûr que les choses devraient bien se passer vu les deux.
Le bémol par contre, c'est que tu te dis que s'il n'y a pas Verratti dans ce milieu-là, c'est très compliqué d'avoir cette relation-là parce que Rabiot est trop sécurisant dans les choix de passe qu'il réalise. Puis il ne les masque pas et tu sais très bien qu'il va finir par jouer le latéral un peu comme Varane plus bas sur le terrain le fait. Et bon, de toute façon, c'est le cas pour le PSG depuis 3-4 ans comme ça. Quand Verratti est là, c'est une toute autre équipe. Et le problème, c'est que tu peux pas lui faire confiance sur sa santé. Tu sais pas quand il sera là, et tu sais souvent qu'il sera pas là en mars parce que c'est là que son corps a pris l'habitude de lâcher. C'est dommage parce que c'est là que les grands rendez-vous sont placés. Donc c'est une relation hyper intéressante et c'est normal parce que c'est deux des meilleurs joueurs en Europe qui évoluent ensemble. Et je suis curieux de voir ce qui va se passer aussi quand Neymar va réussir à se placer à l'intérieur et que ce sera Mbappé qui arrivera à lancer à droite. Parce que là, ça va être autre chose. Ou que ce soit un Meunier latéral droit, parce que là, il a remplacé Dagba, ou que ce soit Dani Alves. Enfin, il y a beaucoup de combinaisons possibles. Et si Tuchel arrive, comme il veut le faire, à faire de Neymar ce point névralgique, ce vrai meneur de jeu, ouais, le PSG va beaucoup changer.
Après, se posera quand même toujours la question de la manière de défendre quand il faudra défendre
oui.
dans ce système-là en 4-2-3-1.
Là, c'était ça défendait en 4-4-2 avec une intensité variable. Il y avait des séquences où d'un coup, Neymar allait chasser super haut. Par exemple, le PSG vient de marquer, il va chasser super haut, il récupère un ballon direct et Cavani rate une occasion de marquer un nouveau but. Puis il y a des séquences où tu sens qu'il perd le ballon et il lâche direct son effort. Il n'y a pas de, y a aucun contre-pressing. Les autres le font autour de lui et ils l'ont plutôt bien fait, notamment les jeunes. Mais sur c'est à géométrie variable, quoi, son effort défensif.
Justement, tu évoques vite fait les temps faibles qui sont un petit peu rythmés de la même manière que ceux de Neymar. Et dans les temps faibles, il y a un joueur qui ressort à tes yeux encore une fois.
Ouais.
C'est Thiago Silva derrière, qui j'imagine a tenu la surface quand il le fallait.
Mais même avant ça, il a tenu toute la profondeur que le PSG devait couvrir parce qu'il jouait très très haut et petit à petit le Reims a reculé. Et puis il y a eu un temps faible à partir d'ailleurs, Tuchel l'a dit dans sa conférence de presse, on a bien joué pendant 60 minutes et après ça a été un peu moins bien. Et ça colle un peu avec la déconcentration de Neymar, tu vois, après le quatrième but où lui il sort un peu du projet collectif et les autres aussi. Et sur la fin de match, Thiago Silva a été énorme, il a couvert je ne sais pas combien de fois Marquinhos. Face à Chavaria, face à d'autres, face à Oudin ou Ojo qui venaient faire des appels dans la profondeur. Et à chaque fois que je le revois au stade, je me souviens, tu vois, c'est des rappels. Enfin, c'est comme toi quand t'avais vu Van Persie au stade un jour,
ouais.
Où tu t'étais rendu compte du niveau du gars, parce que c'est des choses qu'on ne voit pas forcément à la télé. Parce que les couvertures de Thiago Silva, quand tu à la télé, tu vois pas d'où il vient et de quelle distance il vient couvrir. Alors que quand t'es au stade, tu te rends compte qu'il fait des kilomètres pour venir soutenir ses partenaires et à un moment, j'avais de la peine pour Reims parce qu'ils essayaient sans cesse d'attaquer dans le dos de Marquinhos. Et puis Thiago Silva apparaissait. Et je pense que contre le PSG, il faut juste essayer de jouer dans le dos des latéraux et espérer qu'à un moment, Thiago Silva soit à l'opposé et puisse pas faire la distance. Parce que sinon, c'est quasiment impossible d'attaquer cette profondeur. Et c'est vraiment impressionnant de voir un tel joueur comme ça, même à cet âge-là. Et c'est en même temps nourrir plein de regrets parce que je le disais hier quand on discutait un peu sur Facebook, sur la pure technique défensive et la couverture du terrain, je pense que c'est bien meilleur que même les mecs qui enchaînent les 11 FIFA ou les 11 The Best. Je pense que par exemple, tactiquement et techniquement, Silva est bien au-dessus d'un Ramos, mais après sur des aspects, c'est
mentaux,
difficile à quantifier. Ouais, on ne sait pas parce qu'il a fait partie de plusieurs échecs, mais par exemple, le Brésil qui perd 7-1, il est
ouais,
suspendu
il joue pas,
ou il est blessé, tu vois.
Ouais.
Mais sur d'autres aspects, alors peut-être qu'il a eu des équipes qui étaient un peu moins fortes que le Ramos du Real aussi, mais c'est dommage de ne pas l'avoir vu régulièrement en demi-finale de grandes compétitions.
Eh ben, ce sera peut-être pour cette saison.
Ouais, peut-être.
Qui
ouais.
Sait. Dernier mot sur ce PSG Reims, les jeunes, parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient sur le terrain,
ouais.
Notamment Moussa Diaby, dont c'était la première titularisation, je crois, en Ligue 1.
Peut-être, faudrait que je vérifie, mais en tout cas, il y avait 2-3 des habitués maintenant depuis la pré-saison. Ouais, c'était sa première titularisation, c'est ça. Il avait
avec,
fait quelques grosses entrées en jeu avant ça.
Avec Dagba et Diaby, avec Dagba et Ansuki, pardon,
c'est
que
ça.
Eux, on avait déjà vu, on
ouais.
avait déjà vu jouer.
Bah, Dagba qui s'est malheureusement blessé assez vite dans le match, qui a été remplacé par Meunier, juste avant la mi-temps, je crois. Non, la 23ème, tu vois, bien avant ça. Ansuki à gauche et puis Diaby à gauche. Alors, Diaby, excellent dans les déplacements, il y a une grosse cote auprès des supporters et du club. Je pense que par contre, sur la première touche, tu vois, là où un Neymar, tu peux lui passer le ballon dans n'importe quelle condition, tu sais que soit il va rester collé, soit il va bien l'orienter. Diaby a des premières touches un peu suspectes parfois. Une fois qu'il a pris le ballon et qu'il le conduit, c'est très fort. Mais sur la toute première touche, il y a toujours un peu de difficulté. Je trouve qu'Ansoki n'a pas du tout la technique d'un latéral gauche du haut niveau. Alors, il est très fort athlétiquement et il est fort dans le duel et il a une vitesse et une endurance qui lui permet de. Et encore, l'endurance, c'est pas trop ça. Même Tourelle en a parlé. Il est souvent cuit après 60-70 minutes. Et je pense qu'il s'établira à terme un poste de défenseur central. Je pense pas qu'il ait la. En tout cas, la technique pour jouer dans un PSG, dans une équipe de possession, je pense pas au poste de latéral.
Est-ce que c'est le fameux profil du latéral, mais qui en fait serait parfait pour être dans une défense à 3 et centrale gauche?
Ouais, je crois que c'est un peu ça, ouais. Ansoki, pourtant,
ouais.
Tu vois, il est pas immense, hein. Je regarde sa taille,
ouais,
il a
ouais.
1m78, ça
c'est
me paraît
ça,
un
ouais.
peu étrange. J'ai l'impression qu'il est plus grand que ça. Quand tu le vois au stade, t'as l'impression qu'il fait plus grand, parce qu'il est quand même assez carré aussi. Mais sa première touche est bien plus suspecte que celle de Diaby, par exemple. Et puis, il a du mal à, à se mettre facilement dans le sens du jeu, et pour un latéral, c'est quand même problématique. Après, sur le reste, il est très rigoureux et très discipliné, et il fait très bien le boulot pour un joueur qui a quand même 19 ans. Puis Dagba est très prometteur, mais voilà, il s'est blessé, donc rien, pas grand-chose à dire sur son match. En dehors de lui, par contre, tu sens qu'il a la technique pour jouer latéral dans une équipe de possession, et ça, ce sera intéressant pour le PSG, surtout si Dani Alves met beaucoup de temps à revenir.
Et c'est vrai qu'il en met un petit peu là.
Ouais,
je sais
ouais,
pas
ouais.
quand est-ce qu'il va revenir, mais ça commence à remonter. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour sur
ouais,
ton,
on a
sur
fait le
ton
tour.
PSG
On a fait
Reims.
le tour de mon épisode au stade. Je crois que ça va être ton tour. Tu étais, toi, du côté de Bordeaux pour
Ouais.
la victoire des Girondins sur
Le
Lille.
hold-up. Le
Ouais,
hold-up.
le hold-up, puisqu'on avait ton live Facebook pendant le match. Et apparemment, Lille a commencé très fort. Costil aussi, étonnamment.
Oui,
C'était
pour
plus
une
dans ses
fois.
habitudes. Et puis le Bordeaux de Ricardo s'est imposé 1-0, un peu comme à l'époque, contre un Lille qui confirme sa qualité collective et individuelle également.
Bah, à vrai dire, ça faisait très longtemps. Au final, je suis arrivé vraiment juste pour le coup d'envoi. Et heureusement, parce que je crois que la première occasion tombe au bout de 2-3 minutes de jeu. C'est une première frappe, je crois, de Pépé que Costil doit bien se détendre pour la sortir. Et puis ensuite, il y a une énorme occasion pour Bamba où il est seul dans les 6 mètres et puis il tire sur Costil. Et c'est sur le contre de cette action, dans la continuité, que Bordeaux marque son seul but, c'est le seul but du match. Mais c'est vrai que Lille, collectivement, ouais, ça faisait très longtemps en fait que depuis le stade, depuis Bordeaux, j'avais pas vu une équipe aussi forte sur une période courte. C'est-à-dire les 10 premières minutes, franchement, on peut peut-être même pousser jusqu'au premier quart d'heure. Alors, tu sors avec l'avantage au score quand t'es bordelais, mais franchement, tu sais que c'est un miracle, quoi. Parce que Lille a trois énormes occasions, Lille met une énorme pression, et Lille avait surtout un côté droit très très efficace pour construire. Bordeaux en face, c'était dans la lignée de ce qu'ils ont montré à Guingamp, donc c'était un bloc compact, un 4-5-1 qui joue quand même assez bas au final et qui est peut-être obligé et peut-être amené à jouer très bas, mais bref, qui est très bas et qui essaie de réduire les espaces, mais qui n'y arrive pas parce qu'en face ça va trop vite. Parce que le LOSC s'appuyait notamment sur un côté droit très fort où tu avais Thiago Mendes qui un petit peu comme ce que fait Kroos du côté du Real Madrid, tu sais, ce désaxe un petit peu côté. Genre,
Ouais.
il s'installe dans le half-space à peu près et puis il organise le jeu depuis cette zone-là. Alors, le fait qu'il se désaxe comme ça permettait à Celik de prendre le couloir et à Pepe de se retrouver à l'intérieur du jeu, entre les lignes. Et du coup, à Pepe, ça lui permettait aussi et surtout de se rapprocher d'Ikoné et de Rui Fonte, qui sont les deux joueurs à l'intérieur. Et c'est ce petit groupe-là. Donc Mendes, Celik et Pepe, Ikoné, Rui Fonte à l'intérieur, qui combinaient et ça allait très 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 vite. Et les Bordelais ont été très très souvent dépassés. Et du coup, bah, voilà, il fallait un très grand gardien parce que sinon, ouais, ça pouvait faire 3-0 à la mi-temps pour Lille et c'était la même chose, quoi.
Lille finit à 2-0-1 explicit goals le match, Bordeaux à 0,89. Donc tu sens quand même l'écart en tout cas d'occasion sur la rencontre et puis les temps forts lillois qui sont, tu l'as dit, très puissants. Et ça reprend un peu ce que disait Christophe sur qu'est-ce que peut faire une équipe en Ligue 1 en 4-2-3-1 avec deux ailiers très bons, dont un qui est en super forme, c'est Pépé, et de la vitesse quasiment à tous les postes. Parce que ça me fait penser un peu à toute proportion gardée au Monaco de Jardim il y a 3-4 ans où tu avais l'impression que tous les mecs couraient plus vite que leur adversaire direct. Et forcément, quand tu as cette équipe-là, avec le profil de coach de Galtier, qui arrive toujours à construire des projets cohérents où ça va vite en contre, là, c'est très difficile de maîtriser le tempo face à Lille parce qu'il n'y a pas de tempo, quoi, c'est que la folie.
Oui, mais en plus, au-delà d'aller, en plus d'aller très vite en contre, là, ils ont fait face à un bloc repli. Alors certes, qui n'était certainement pas parfait. Il faudrait que je revoie le match dans des conditions, enfin avec une caméra un peu plus haute, parce que là, j'étais assez près du terrain. Donc du coup, c'est vrai que l'impression de vitesse, elle était très évidente. Mais plus que des contres, là, les Lillois, c'est face à un bloc entre guillemets en place, et ils ont quand même trouvé des solutions. Ils ont quand même réussi à le perforer plusieurs fois. Et à se créer d'énormes occasions. Après, comme je le disais, il y a des gros temps forts. Il y a eu surtout un gros temps fort, ce début de match, où finalement c'est Bordeaux qui marque et c'est assez miraculeux. Mais ensuite, ça s'est éteint, quoi.
Ouais.
Après, on ne peut pas parler non plus de temps faible parce que Bordeaux n'a jamais dominé ce match. Mais il y avait des moments où voilà, ça ne fait plus rien, où ça repose beaucoup plus sur la percussion de Pépé et sa capacité à faire seul des différences. Mais ce début de match où vraiment il y avait à la fois Pépé, mais il y avait aussi les relais d'Ikoné, de Rui Fonte et un côté droit qui fonctionnait très bien. Et ce début de match, franchement, il fallait vraiment s'accrocher pour en face pour que ça tienne. Et de toute façon, Bordeaux s'en est remis uniquement à son gardien pour s'en tirer, quoi.
Parce que là, je regarde l'évolution des occasions sur la durée du match. En effet, Lille démarre très fort. Après 15 minutes de jeu, ils sont à déjà un d'expected goals. Ouais. Puis après, ça ralentit jusqu'à la mi-temps. Ils ont des petites occasions en deuxième période. Et puis, il y en a une énorme à la fin du match, apparemment.
Oui, toute fin, ouais.
Mais qui est quasiment aussi plus forte qu'un penalty en termes de stats. Ouais, mais entre ces moments-là, Bordeaux a réussi à maîtriser. Et c'est peut-être une force de ce nouveau Bordeaux ou pas ? Parce que c'est difficile de savoir s'il y a un vrai nouveau Bordeaux ou pas.
C'est assez compliqué. Ce qui est sûr, alors juste pour finir sur Lille, il y a aussi quelque chose à noter sur la deuxième mi-temps, c'est qu'un joueur comme Ikoné, par exemple, qui était un relais privilégié de Pépé en première, c'est un petit peu éteint et un petit peu dispersé en deuxième. Quand on regarde la passe map et surtout la zone où il a touché ses ballons, en première, il a vraiment touché ses ballons côté droit. Et il y a vraiment une grosse insistance sur cette zone-là du terrain. Alors, si ça se trouve, c'était aussi pour attaquer Pungé, qui est quand même un maillon faible de la défense bordelaise. Mais voilà, sur la première mi-temps, il y avait vraiment du monde à droite et ça faisait beaucoup de différence. Et en deuxième, c'était beaucoup plus dispersé et du coup, les Lillois ont eu du mal à se trouver. Alors, pour revenir sur Bordeaux, c'est assez difficile à dire. Là, ils sortent de deux rencontres. Après avoir passé une semaine très compliquée avec le 3-3 contre Nîmes et la défaite contre le Slavia Prague 1-0, où là, défensivement, ils touchaient sans doute le fond, ils ont au moins réussi à retrouver un semblant de cohésion collective, c'est-à-dire que face au Slavia Prague, tu avais par exemple, ça jouait en 4-2-3-1, et puis tu avais trois milieux qui coulissaient côté, et puis tu avais le quatrième qui, au lieu de les accompagner, suivait son latéral à l'opposé, quoi. Donc il y avait vraiment une disparité dans les principes défensifs. Certains, enfin chacun faisait un petit peu comme il avait l'habitude de faire, et il n'y avait pas forcément de force, de cohésion collective. C'est comme face à Nîmes où tu avais trois défenseurs qui suivent leurs adversaires directs et le quatrième qui joue le hors-jeu. Bon bah c'est pas possible. Tu prends un but justement parce que t'as un alignement défaillant là-dessus. Je pense que sur la semaine qui vient de s'écouler, ils ont au moins reposer des principes communs. Ils ont retrouvé des principes communs à Guingamp et donc face à Lille. Ils ont retrouvé un 4-5-1 où on semble parti pour jouer de manière chiante, c'est-à-dire deux lignes très compactes, très bas, et ensuite on sort en contre-attaque. Du coup, un sous-losque en fait. Hein, ouais, puisque au final, c'est un petit peu le projet de base de Lille cette saison, mais je pense qu'ils ont une richesse qui est bien supérieure dans le jeu après.
Sur les deux matchs, il y a quand même beaucoup de réussite pour Bordeaux, parce que Guingamp, c'était à peu près le même bilan en termes d'occasion. Guingamp avait eu deux fois plus d'occasions que Bordeaux, et Bordeaux avait marqué trois buts.
C'est ça.
Assez, pas miraculeux, mais disons très bien payé par rapport à leur production offensive.
Exactement. C'est là c'est l'importance du quand tu joues comme ça, c'est l'importance du premier but, l'importance du fait d'ouvrir le score, qui pèse beaucoup aujourd'hui. Si Bordeaux face à Reims par exemple encaisse le premier, je sais pas vraiment comment ils vont réagir et je sais pas vraiment s'ils sont en capacité de ramener un résultat. Mais par contre, c'est vrai que quand tu vois les joueurs alignés, que tu vois Kalou et Camano sur les côtés, que tu vois Briand ou Cornelius devant, qui sont des attaquants pas forcément très talentueux, mais qui sont plutôt intelligents et qui savent s'associer avec d'autres et qui savent jouer pour les autres. T'as une équipe qui a la capacité à sortir très rapidement en contre-attaque. Ils ont la vitesse avec Kalou et Camano. Ils ont des joueurs capables d'accompagner aussi au milieu de terrain qui ont un certain volume de jeu et surtout de course. Donc pour cette équipe-là, l'important, ça va être, parce que a priori, je pense que le projet, ça va être de jouer comme ça pendant la majeure partie de la saison. Il va falloir que ce bloc bas réussisse à mieux sortir les ballons sous pression et à se trouver des circuits fiables pour remonter rapidement le terrain. Et là-dessus, c'est ce qu'ils font très bien sur le match face à Lille et sur le but surtout, plus que sur le match. Parce que le but, c'est une très belle sortie de balle d'Otavio qui lance Kalou et qui ensuite, Kalou porte la balle quasiment jusqu'au bout. Et c'est ce genre d'action-là, je pense, que Bordeaux va tenter de répéter au fil de la saison. À voir ce qu'ils seront capables de faire quand ils seront menés au score. Parce que là, c'est vrai que pour l'instant, les deux matchs se sont parfaitement déroulés pour eux. Puisque à chaque fois, l'adversaire avait eu beaucoup d'occasions. Guingamp en avait eu deux avec Marcus Thuram et Nolan Roux et n'avait pas réussi à ouvrir le score. Là, Lille a eu Bamba, a eu Pepe, et je crois qu'il y en a même un troisième, mais je sais plus qui l'obtient. Et là, ils n'ont pas réussi à ouvrir le score, donc voilà. Pour l'instant, ça tourne bien, donc il n'y a pas besoin de pousser dans les retranchements du projet. Mais c'est vrai que sur le papier, il y a de quoi faire, mais voilà, les circonstances jusqu'ici, là, sur les deux derniers matchs, sont quand même très heureux, très favorables. Ouais.
Il y en a un qui brille, par contre, individuellement. On a parlé de Pepe et de Bamba côté Lillois, côté Bordelais, dans un peu le même profil de joueur, peut-être en plus monomaniaque, c'est Camano,
ouais.
Qui est un peu le Thauvin droitier, si on devait comparer. Je tente, hein, parce que
oui,
c'est un peu
oui,
les mêmes
oui,
positions
oui.
de frappe et un style très vertical, très percutant. 5 buts en 7 matchs depuis le début de la saison. Alors, son record sur une saison, c'est 8 buts. Donc, je pense qu'il est bien parti pour le battre.
Oui,
même
risque.
Si là, il est en surperformance, t'as une progression logique quand même pour un joueur qui est arrivé à Bordeaux à 20 ans, je crois.
Ouais.
Après des bribes à Bastia, des promesses, mais peu de stats. Là, il commence à en faire et c'est le cap à franchir pour lui. Reste à savoir si la production offensive de Bordeaux va lui permettre de continuer, parce que là, il transforme un peu toutes les occasions qu'il a.
Ouais, bah c'est un joueur assez frustrant, parce qu'il va être capable de passer à côté de pas mal de choses, mais de réussir sa spéciale, quoi. Face à Guingamp, la frappe qu'il met en lucarne, et sur laquelle il débloque la situation, il ouvre le score. C'est vraiment le geste qu'il maîtrise parfaitement. C'est pour ça que parler de surperformance, c'est alors évidemment l'exemple typique, c'est Robben, qui connaît parfaitement sa frappe où je repique à l'intérieur et j'enroule du gauche et je la mets quasiment à chaque fois. Alors Camano la met pas à chaque fois évidemment, sinon il serait certainement pas à Bordeaux. Mais c'est la même idée, ce qui fait que quand il a ses positions de frappe, il a quand même un pourcentage de réussite qui est bien plus élevé que le pourcentage habituel, où je crois que c'est 2 ou 3%, je pense, pour un tir pareil, le tir qu'il met face à Guingamp.
Je vais te dire ça
Même s'il est,
pendant que tu continues ton argument.
Je crois qu'il est un peu plus loin face à Guingamp.
Il est très très loin, c'est
ouais.
0,02. Ouais, c'est 2%.
Ouais, 2%.
Ses autres buts, c'est 3% contre Toulouse.
Ouais, où il est
contre
très excentré.
Contre Monaco, c'est 6%. Il est un peu plus à l'intérieur. Il y a le pénalty qu'il met, et puis il y a l'occasion contre Lille, qui est sa meilleure occasion de la saison et qui est difficile à rater.
Ouais. Ouais, enfin en l'occurrence Bamba la rate quelques secondes plus tôt, mais voilà, mais c'est vrai que oui, il y a une surperformance, d'ailleurs une surperformance assez générale de la part de Bordeaux en attaque depuis le début de la saison, qui lui est quand même grandement imputée. Oui, alors le truc c'est que c'est un joueur, ce qui est quasi certain, c'est qu'il sera sur le marché l'été prochain. Mais il est tellement monomaniaque, il gère tellement il a pas une énorme palette. Par contre, il maîtrise la palette qu'il a, quoi. Donc, tu sais, à chaque fois qu'il prend la balle, tu sais ce qu'il va faire. Il va aller fixer le défenseur et puis il va essayer de repiquer intérieur et de se donner à cette place pour tenter la frappe enroulée ou le petit centre par-dessus la défense, etc. Généralement, c'est la frappe, quand même.
C'est la différence entre le joueur qui va finir à West Ham, Watford ou Southampton et Malcolm qui finit au Barça parce qu'il est capable de faire aussi d'autres choses.
Ouais, c'est
au-delà
ça.
Au-delà de fixer et frapper.
C'est un peu ça. Mais c'est vrai qu'il a, voilà, il commence à maîtriser, on va dire, assez de choses. Il commence à avoir une palette assez intéressante pour franchir ce palier et se retrouver sans doute en effet en première ligue, voire peut-être en Bundesliga l'année prochaine.
C'est vrai.
C'est un joueur qui pourrait briller dans ces deux championnats, à n'en pas douter.
Sur l'idée de la surperformance, j'étais en train de vérifier les stats de Robben sur les 3-4 dernières saisons, et lui il surperforme à chaque fois, et quand tu surperformes chaque saison, c'est que c'est plus de la surperformance.
C'est ça.
C'est une qualité que tu as développée, mais par exemple 2014-2015, il est à 10 expected goals, il finit à 17 buts. 2016-2017, il est à 6, il finit à 13 buts. Tu vois, c'est parfois du simple au double, ce qui montre bien qu'il y a un truc que les expected goals n'arrivent pas toujours à capter, c'est simplement le talent du joueur. Et si Camano en met peut-être 1 sur 3, 1 sur 4 dans cette position, Robben en met 2 sur 3, 2 sur 4.
Ouais.
Et ça fait toute la différence. Même si là, tu es sur un technicien, Robben est peut-être un des meilleurs pieds gauches de l'histoire. Donc ça change aussi la donne.
Oui, on est sur une qualité bien supérieure quand même, évidemment. Mais c'est sûr que pour le fameux projet des nouveaux propriétaires, avoir un Camano qui a été acheté, je pense, 2 ou 3 millions d'euros à Bastia, et qui vont peut-être vendre au moins 20.
Ouais, c'est ça, 15-20, je pense, vu le profil. Ouais.
Vu le profil, c'est sûr que ça peut leur permettre de bien démarrer leur projet de trading. Ça, c'est certain. C'est pas forcément le projet le plus enthousiasmant quand t'es supporter. Mais bon, là en l'occurrence, le joueur, je pense que ça fera. Il aura fini sa troisième saison, je crois, à Bordeaux. Il aura besoin sans doute d'aller voir ailleurs. A priori, il a le. Je crois que son agent a fait une interview hier ou avant-hier dans 20 minutes. Où justement il parle déjà du mercato d'hiver, etc. Mais il semble vouloir au moins finir la saison à Bordeaux. Et de toute façon, entre le championnat et surtout la Ligue Europa, Bordeaux peut-être faire un petit parcours. En tout cas, ça peut lui permettre aussi de se montrer au niveau Coupe d'Europe. Il aura le Zénith et Copenhague à jouer notamment. Ça peut lui permettre de faire quelque chose de bien et de finir sur une bonne note à Bordeaux avec une saison avec. Là, vu comme il est parti, je pense que la barre des 15 buts est quand même assez largement à sa portée.
En parlant d'espoir, on va faire un petit point sur les 15 espoirs qu'on avait cités en Ligue 1. Je crois que c'était en avril dernier qu'on avait fait l'épisode. On avait classé les moins de 21 ans, en gros, du meilleur au 15e, en tout cas en termes de potentiel. Alors, je vais te dire le classement, Flo, et puis tu interviendras sur le joueur qui te donne envie d'intervenir. Le premier est évidemment Mbappé, deuxième Aouar, troisième Malcolm qui est parti, quatrième Tielemans, cinquième Max Lopez, Jules Koundé, sixième, Saint-Maximin, Ismail Assar, Ludovic Blas, Nordi Mukiele, Touzard, Nianion, Terrier, Lafont et Nkunku. Ouais. Il y en a quatre qui sont partis à l'étranger, Malcolm, Mukiele, Nianion, Lafont, avec des bonheurs très, très différents depuis. Si Lafont est titulaire à la Fiorentina, Nianion a très mal démarré à Séville. Mukiele joue à Leipzig et puis Malcolm galère à trouver du temps de jeu au Barça, mais celui qui nous a fait tilter, c'est Tielemans. Ouais. Surtout, puisqu'on l'avait mis quatrième et qu'on continue d'avoir confiance en lui, et puis ça démarre encore une fois très mal cette saison. Et au-delà de son cas à lui, c'est plutôt le cas collectif de Monaco qui pose beaucoup de questions.
Ouais, c'est tout le milieu de Monaco. Je les ai vus face à Angers, et d'ailleurs, j'ai peut-être quelque chose qui va sortir en magasin enfin autour de l'intégration de Golovin et notamment justement du milieu de Monaco qui paraît pas du tout fonctionnel à l'heure actuelle. Et c'est vrai que Tielemans, justement face à Angers, il a quand même vécu une soirée très très compliquée. T'étais sur une situation où t'arrivais sur un dégagement de Benaglio, dégagement à la main de Benaglio, qui la met dans les pieds de Tielemans. C'est Tielemans qui rate le contrôle et qui perd la balle à 25 mètres de ses buts.
Ah, donc voilà, c'était vraiment. La Zambo Anguissa.
Ouais, c'est ça. Et encore, c'était même pas une passe au pied. C'était. Voilà. Mais non, c'est assez compliqué de le juger, de le jauger, parce que t'as quand même, malgré tout, toujours les images en tête de ce qu'il pouvait faire en Anderlecht. Sauf que. À l'époque, tu le voyais pas sur un match complet, tu voyais surtout les highlights, tu voyais les frappes, etc.
Ça commence à dater, mais il y avait le trophée des champions qui dispute lors de son arrivée contre le PSG, où il est excellent pendant au moins 60 minutes. Ouais. Et puis la saison complètement pas transparente, mais frustrante ensuite.
Ouais, frustrante. Alors il y a eu la blessure au début, je crois. Il a eu quelques problèmes. Il a passé du temps à l'infirmerie, il me semble, du côté de Monaco. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, en fait, tu sais pas vraiment si tu peux compter sur lui. Normalement, justement, c'est pour ça qu'on l'avait mis quatrième dans notre top 15. T'imaginais qu'il allait prendre plus d'assurance et plus de responsabilité après le départ de Fabinho. Dans l'entrejeu, a priori, Fabinho et Moutinho qui partent, c'était à lui de s'épanouir et de prendre les clés. Et en fait, t'es en train de te rendre compte, pour l'instant en tout cas, qui semble en être incapable en fait. Et du coup, il est aussi perdu que les joueurs qui viennent d'arriver, comme notamment Aoulou, qui n'est clairement pas un numéro 6, en tout cas sur ce qu'on peut voir. Qui est bien plus intéressant quand il joue plus haut sur le terrain. C'est comme ça qu'il avait joué à Strasbourg et qu'il avait été performant, qu'il avait fait une belle saison. Mais Aoulou numéro 6 dans une équipe qui a la balle, ça peut pas marcher. Et du coup, Monaco aujourd'hui est vraiment, à mon sens en tout cas, dépendant de Haït Bennacer, qui était d'ailleurs dans notre top 15 je crois l'année d'avant.
Oui, oui.
Qui avait fait une bonne saison à Caen mais qu'on n'avait pas retenu en mai dernier. Et justement, Haït Bennacer n'était pas là face à Angers, et j'ai l'impression que, en tout cas c'était la remarque que je me faisais pendant le match et que j'avais fait sur Twitter, c'est que aujourd'hui, Haït Bennacer est indispensable à Monaco à ce poste de numéro 6, parce que Monaco est une équipe qui, malgré tout, a plus la balle que la majorité de ses adversaires et a besoin d'un 6 capable de voir vite le jeu, de donner vite le ballon et surtout d'être fiable avec la balle, ce que n'est pas pour l'instant Aoulou. Et c'est vrai que Tielemans, est-ce que ce poste de 6 pourrait lui convenir, ça je sais pas. Après, il a lui aussi été beaucoup plus connu pour sa capacité à se projeter et à finir les actions.
Jardim l'a aussi placé en tant que numéro 10 sur certains matchs pour un peu voir justement ce qui pouvait lui convenir, sans beaucoup plus de succès.
Il a même testé côté droit, j'ai souvenir en Ligue des Champions, d'un match la saison dernière où il joue milieu droit, milieu excentré.
Comme les milieux de l'Atletico un peu, Coquet, Saoul quand il joue côté.
Donc comme Lemar, même si Lemar a été formé ailier, mais voilà, c'est le même esprit. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie question qui se pose autour de ce milieu de Monaco et un très très gros chantier pour Jardim. Parce que c'est vrai que Tielemans, qu'on attendait et qu'on avait mis quatrième l'année dernière, notamment en se disant, maintenant il va avoir la place pour s'exprimer, etc. Et c'est vrai que ce début de saison est assez inquiétant. D'ailleurs, de toute façon, le classement le montre. Hein, 18e après 7 journées, je crois, pour l'AS Monaco. Alors on les attendait, enfin personnellement, après avoir vu le trophée des champions, je les attendais pas non plus au niveau de Lyon ou de Marseille. Je les attendais quand même bien en retrait. Mais les imaginer 18e, franchement, je l'aurais pas parié, quoi.
Ouais, et puis t'as quand même Falcao. On parlait de la surperformance répétée de Monaco pendant 2-3 saisons lors d'un épisode précédent, je crois peut-être le 3e ou le 4e. Et là, c'est l'inverse qui se passe. C'est vrai que le Monaco est en sous-performance sur quasiment tous les joueurs.
Ouais.
Falcao, par exemple, devrait être à 5 buts, il en est à 3, alors que les saisons passées, c'était complètement l'inverse. Donc leur classement va se redresser, mais en termes d'effectifs purs et de talent, tu sens quand même que c'est la première saison où tu te dis, ouais, cette saison, la 4e, la 5e place, là tu vois un Lille qui devient un peu embêtant pour les autres équipes.
Oui, ils sont là, franchement.
Est-ce que Lille n'est pas meilleur que Monaco collectivement aujourd'hui ici? Après, si, en termes d'individualité, tu sais pas, mais sur les lignes offensives, il y a bagarre, quoi. Sur Rony Lopez, Grand Cyr, Pepe, Bamba, tu vois. Il n'y a pas pour moi un des deux qui est vraiment au-dessus du lot.
Non, il y a clairement match. Après, de toute façon, Monaco l'année dernière, c'était une équipe très forte sur les transitions et surtout l'étal, comme tu le disais, avec un Falcao qui était hyper performant et qui avait permis à Monaco, notamment sur les trois premiers mois de la saison, à surnager en attendant que les choses se mettent en place. Et c'est vrai que cette année, là, pour l'instant, ils ont pas ce talent-là ou ce finisseur qui va leur débloquer la situation ou leur offrir un break ou leur offrir le but de la victoire, chose qui existait l'année dernière.
En attendant, sont moins forts sur coups de pied arrêtés aussi, tu sais, il y a moins de, parce qu'ils étaient souvent sauvés par Glick aussi, qui est sur des coups de pied arrêtés bien tapés de Moutinho, de Lemar était là, et puis là il n'y a plus vraiment de tireur
de toute façon, le début de saison de Monaco l'année dernière, t'as les 3-4 premières journées où t'as Moutinho qui tire les coups de pied arrêtés et t'as Glick ou Jemerson qui mettent leur but. Et il me semble même qu'à un moment donné, la saison dernière, en tout début de saison évidemment, l'une des relations les plus efficaces en Ligue 1 passeur-buteur, c'était Moutinho-Glick, je crois. Donc voilà, ça explique le début de saison. Après, t'as eu la surperformance de Falcao, qui je crois a mis 14 ou 15 buts en 3 mois. Donc ça les a maintenus à peu près, ça leur a permis de prendre des points jusqu'à novembre-décembre, notamment passé la période difficile de la Ligue des Champions où il faut enchaîner les matchs, etc. Et justement, la Ligue des Champions, ils étaient passés à côté l'an passé. Et ensuite, on avait quand même vu un progrès collectif. Ça s'était mis en place au fur et à mesure, janvier, février, etc. Là, c'est vrai que ces petits artifices qui leur avaient permis de prendre des points la saison dernière, cette année, ils ne le sont pas là. Et en plus, l'équipe semble repartir d'encore plus loin qu'après la saison du titre. Parce qu'après la saison du titre, ils avaient toujours Fabinho, ils avaient toujours ce 4-4-2 solide, etc., qui est difficile à, enfin il était difficile de progresser face à Monaco. Là cette année, le milieu est très souvent dépassé athlétiquement. J'ai souvenir d'ailleurs de leur défaite face à Bordeaux où Bordeaux les fait reculer, mais c'est juste jeu long, deuxième ballon et on domine sur le deuxième ballon, chose qui n'arrivait jamais avec Fabinho quand même, ou très rarement en tout cas. Là aujourd'hui, c'est vrai que Monaco n'a rien pour prendre des points, et en plus ils n'ont pas la réussite parce que face à Nîmes notamment, ils ont eu la malchance de tomber sur un Bernardoni qui était très 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 chaud.
Alors je vais te citer d'autres joueurs de la liste, je sais pas s'il y en a un dont tu veux parler. Malcolm, on n'a pas eu vraiment l'occasion de le voir. Aouar et Mbappé, il n'y aura aucun souci je pense pour le reste de leur carrière. Tu sens que c'est des joueurs qui sont destinés à de grandes choses pendant 10-12 ans. Maxime Lopez peut être un cas intéressant à l'OM, il perd sa place de temps en temps, il revient, là il y a un passage au 4-3-3 qui peut lui convenir. Tu sens qu'il fait du bien dans la construction marseillaise, mais j'ai l'impression que depuis 2 ans c'est toujours les mêmes évolutions, tu vois. C'est Lopez est sorti de l'équipe, il y a un peu moins de construction, il revient, ça fait du bien, il ressort de l'équipe.
Donc c'est vrai.
Ça n'avance pas. Alors Koundé, ça peut être un cas difficile, parce que là, entre Poyet, les changements d'entraîneur, Ricardo, il y a aussi un changement un peu de style. Et lui qui est un très bon relanceur et qui est peut-être meilleur quand il faut défendre haut. là va devoir défendre sa surface et tu peux te demander, alors je sais pas parce que moi je l'ai pas beaucoup vu jouer, est-ce qu'il va briller autant avec Bordeaux aujourd'hui, Flo?
C'est vrai qu'on risque de moins voir ses facilités pardon, pour relancer et son jeu avec ballon. Après, ça peut être utile aussi face à un pressing haut ou un pressing à la paire d'avoir un défenseur à l'aise sous pression. Donc peut-être qu'on verra plus ses qualités dans ce domaine-là. Après, c'est vrai que sur la capacité à défendre la surface, son 1m79 ou son 1m80.
C'est un Nsoki en fait. Hein.
Ouais, c'est vrai, ouais, je crois qu'il doit faire à peu près la même taille.
Et en beaucoup moins carré, par contre, parce que Koundé, j'ai l'impression qu'il est pas rempli encore.
Il est plus léger, ouais. Mais c'est vrai que par rapport à Pablo, d'ailleurs, il y a une stat très, très simple face à Lille. Bordeaux finit le match, je crois, avec 41 dégagements depuis sa surface. Pablo en fait 20 sur les 41, ce qui est assez monstrueux. Et Koundé en fait 6. Mais il a quand même, forcément, avec son gabarit et comme tu le disais, le fait qu'il ne soit pas très rempli pour l'instant, même s'il y travaille, hein, il y a quand même un progrès dans ce domaine depuis qu'il a démarré. Mais oui, il y a quelques questions qui peuvent se poser, parce qu'il peut parfois être mis en difficulté sur ses dégagements, genre des dégagements de la tête où il est forcément au duel avec un défenseur. Il va souvent passer devant, par contre le dégagement, il va peut-être pas forcément être assuré et finir 30 mètres plus loin, quoi. Ça peut être un dégagement qui retombe à l'entrée de la surface et qui reste dangereux.
Il faudrait qu'il fasse un stage avec l'Atlético de Simeone sur comment on gère les ballons aériens.
Par exemple, mais c'est vrai que son évolution va être intéressante. Alors, ça fait deux matchs où il se retrouve un petit peu après avoir vécu une période assez compliquée. A priori, c'est un des joueurs qui a le plus mal vécu le départ de Poyet, qui lui parlait beaucoup et qui le responsabilisait beaucoup, comme tu le disais, au niveau de la relance, notamment. Donc l'évolution va être intéressante à suivre, mais c'est vrai que, par contre, s'il arrive à se faire à ce projet très différent, ça va quand même ajouter pas mal d'atouts et ça va compléter pas mal son jeu, quoi. Donc c'est à suivre, mais c'est vrai que c'est une des questions qui entoure l'équipe bordelaise aujourd'hui.
On continue à dérouler la liste. Alors Sarr, Blas, je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à dire. Il joue de temps en temps et Sarr joue plus que Blas, mais pour l'instant il n'y a pas vraiment d'évolution notable. Moukielé, Niagnon, Lafond, on en parlera peut-être quand on parlera plus des championnats étrangers. Terrier et Touzard, tout se passe bien à Lyon, surtout pour Terrier qui marque et qui est bon quand il joue. Nkunku a un peu disparu des radars depuis que le PSG a retrouvé un effectif complet.
Alors qu'il avait fait quand même très bon début de saison,
ouais.
À mon
sens. Il est rentré en cours de match contre Reims, il a été bien, mais sans chose remarquable particulièrement. Il y a le cas de Saint-Maximin qui peut être intriguant, parce qu'apparemment, tu m'en parlais un peu, il va être ou il peut être replacé dans l'axe par Patrick Vieira, et c'est un joueur qui, parmi ceux qu'on a, où on parlait de Pépé tout à l'heure, c'est un peu la même question et la même évolution, c'est est-ce qu'ils vont arriver à transformer leur qualité pure de dribbleur, d'athlète, de joueurs de percussion en quelque chose qui se voit dans les stats. Pépé a bien réussi la saison dernière parce qu'il finissait à 13 buts. Ouais. Là, Saint-Maximin, tu sens quand même que depuis 2-3 ans où on craignait un peu la trajectoire, la NTEP, où j'arrive jamais à prendre la bonne décision après le dribble, il y a du mieux et le fait de le faire jouer dans l'axe peut l'amener aussi plus à finir des actions dans la surface et avoir des occasions pour une évolution, pourquoi pas, à la Mohamed Salah qui est passé d'un joueur de côté qui percute à un joueur à l'intérieur qui vient surtout pour marquer des buts.
Ouais, je crois que Patrick Vieira est en train de mettre quelque chose en place sans Balotelli. Voilà. En tout cas, il essaye de trouver une solution pour les moments où il ne pourra pas compter sur Balotelli, quoi. Ce qui arrive quand même assez souvent dans la saison, malgré tout. Et c'est vrai que Saint-Maximin, il me semble que le projet là, c'est de le mettre, en tout cas, c'est ce que j'ai aperçu, il me semble, sur le line-up face à Nantes. J'ai pas vu le match, donc si ça se trouve, ça n'a pas joué comme le line-up annoncé par
Live Score. Je vais te dire ça tout de suite, mais en effet, Saint-Maximin était dans l'axe.
Avec Maolida.
Avec Maolida, qui était devant un Makengo en soutien. C'était un 3-4-1-2 avec Dante, Erel et Malangsar derrière. Laisse Melou, Tamez au milieu, Jallet et Colli sur les côtés, Makengo en soutien de Saint-Maximin et Maolida.
Mais du coup, Saint-Maximin qui malgré tout, c'est simple, il suffit de regarder ses stats sur Soccer. Là, je suis sur Soccerway vite fait. Ses meilleures saisons, il a mis 3 buts l'année dernière et lors de sa saison à Bastia. Cette année, il en a déjà mis 2. Donc, déjà, il est pas loin d'être sur sa meilleure saison, rien que là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui peut, je pense, devenir intéressant en attaquant de soutien. Qui serait percutant dans une équipe qui construirait, qui partirait d'assez bas. C'est un joueur, si tu crées le décalage, je pense, très tôt sur le terrain, genre si tu passes le milieu adverse en le forçant à venir te chercher, Et si tu, il est capable, je pense, avec sa vitesse et sa capacité à se retourner très vite, de maintenir ce temps d'avance jusqu'à la fin. Et après, se pose évidemment la question du dernier choix, de la dernière passe. Mais moi, je l'avais vu, il me semble, c'est la saison dernière, je crois que Favre l'avait testé à ce poste-là. C'était ouais. pas un système à 3, c'était un système genre en 4-4-2 et, ou 4-4-1-1, et il faisait le 1 justement derrière l'avant-centre. Je sais plus si c'est face à Naples ou si c'est face à l'Ajax, c'était un de ces deux matchs. Mais malgré les mauvais choix à la fin, la première partie, c'est-à-dire la capacité à se rendre disponible dans le dos des milieux et à accélérer ensuite, il avait plutôt bien réalisé. Alors ensuite, Favre était revenu à un système avec qu'il repoussait sur le côté. Et c'est vrai que face à des blocs regroupés, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant sur une aile de manière à percuter et à profiter des espaces qui existent sur les côtés pour percuter. Mais c'est vrai que il a quand même une palette, je pense, assez large. Après, se pose évidemment la question des derniers choix et de la finition. Mais le tester dans l'axe me paraît quand même assez approprié. Surtout voilà que Nice aujourd'hui est dans une situation où ils ont quand même perdu beaucoup en termes de poids en attaque. Et au final, derrière Balotelli, à part si Maolida se révèle, mais il semble partir sur un début de saison quand même assez calme, pour l'instant, Saint-Maximin, c'est leur deuxième meilleur talent pour marquer des buts, je pense.
Oui.
Et donc à ce niveau-là, le remettre dans l'axe et lui filer un rôle central dans l'animation et dans l'attaque, ça me paraît être le meilleur calcul. Mais voilà, il va falloir qu'il prouve ensuite sur le terrain qu'il peut enfin multiplier les bons choix et enchaîner surtout des séquences positives.
Et pourquoi pas développer son jeu de haut but, puisqu'il a quand même les appuis et la carrure pour être très fort de haut jeu. C'est un truc qui, par exemple, chez Salah, on pense toujours à ses courses et à ses percussions, parce qu'il va très très vite, et même ses appels.
Tu as parlé de cette prescoquerie de Pripouchkas où il a Martina dans son dos.
Non, parce qu'en plus, c'est même pas son plus beau but de la saison, je pense. C'est peut-être le plus esthétique, mais pas forcément le plus beau et le plus marquant, je trouve.
Ouais.
Mais je pensais surtout à son jeu de haut but, à ça là, parce que quand il se colle à toi et qu'il décide que tu vas pas bouger, tu vas pas bouger. Et c'est difficile de faire le tour alors qu'il est petit, hein. C'est pas quelqu'un qui prend beaucoup de place, mais finalement, quand il te colle de haut jeu, c'est très compliqué de le gêner. Et je pense que si Saint-Maximin a ça, couplé à sa capacité à se retourner, à se mettre dans le sens du jeu, ça peut être hyper intéressant. Alors à voir avec qui il sera accompagné offensivement. Si c'est un Maolida, ça peut être pas mal, parce qu'il y en a un qui peut prendre la profondeur et se mettre face au jeu, et c'est un Maximin qui peut un peu varier. Mais c'est un truc qu'il devra développer. Vu l'évolution de Pléa à Nice, je pense qu'ils sont capables aussi dans un tel environnement d'apprendre beaucoup de choses. Mais c'est vrai que ça me fait penser un peu à ce que Gourcuff essayait de faire avec Ismaïl Assar. Mmh. Où il avait essayé de le replacer dans l'axe, ça n'avait pas vraiment marché. Là, avec Saint-Maximin, je pense qu'il faut espérer que ça marche, parce que sinon il va être l'ailier qui marque pas assez, qui fait pas assez de passes D. Et ce rôle-là est assez frustrant, que ce soit aussi bien pour le coach que pour le joueur. Est-ce qu'il y a un autre nom que tu veux évoquer, Flo? Alors, je les répète, Nkunku, Terrier, Lafont, Touzard, Moukile, Niagnon, Blas, Sarr, Lopez. Non, je pense qu'on aura l'occasion pendant la saison de reparler de ces joueurs-là. Parce qu'il y en a quand même pas mal pour une fois qui sont restés en Ligue 1, alors que les saisons précédentes, il y en avait la moitié ou voire plus qui disparaissait en quelques mois. On passe au Paris. C'est la séquence Paris avec notre partenaire PMU.fr. Florent, tu vas nous parler, pas de Ligue 1 cette fois-ci, parce qu'on a parlé de Ligue 1 pendant tout l'épisode. Tu vas d'abord aller en Angleterre, où tu vas nous parler de ton chouchou.
Oui, mon chouchou, Alexander Mitrovic, le buteur de Fulham, qui en est à 5 buts, je crois, depuis le début de la saison, il me semble.
Dont déjà 3 de la tête,
mais ça, c'est pas vraiment une surprise. En fait, c'est un pari que j'avais hésité à proposer la semaine dernière, et finalement, je l'ai joué sans l'avoir proposé. C'était Mitrovic, premier buteur, de Fulham. C'était face à Watford, et finalement, il a égalisé en fin de match, et il a permis à Fulham, je crois, de prendre un point sur la pelouse de Watford. J'essaie de me remettre le truc sous les yeux avec ma tablette, mais elle ne marche pas très bien. Oui, voilà, Fulham-Watford, ça avait fait un partout. Watford avait ouvert le score très tôt, et Fulham a égalisé très tard. Et même Mitrovic a même eu une balle de 2-1 où il touche la barre en fin de match. Donc du coup, je me dis, si c'est passé une fois, c'est un petit peu... C'est mon théorème, comme avec Dijon, le plus de 2,5.
Oui, qu'on fait pas assez avec Dijon, hein, parce que ouais. Ça marche quasiment à chaque fois.
D'ailleurs, il est passé hier aux grandes dames des Dijonais qui ont pris 3-0, mais pour le coup, il est passé. Et donc voilà, c'est Mitrovic, premier buteur face à Everton. Alors pourquoi? Parce que déjà il pèse beaucoup dans les buts de Fulham, c'est quand même quasiment le buteur attitré de cette équipe. Il met 5 buts depuis le début de la saison, il est meilleur buteur de Premier League à égalité avec Eden Hazard. Fulham a mis 8 buts à côté de ça, et surtout de l'autre côté, Everton est une équipe qui a pris au moins un but par match depuis le début de la saison, donc ils n'ont pas encore réussi de clean sheet. Donc je me dis que pourquoi la série s'arrêterait là. Donc Mitrovic, premier buteur de Fulham, pas premier buteur du match, hein, au cas où.
Mais Fulham peut perdre, Fulham peut en prendre 8.
Voilà, c'est ça. Et c'est coté à 3,20, donc ça me paraît être une cote plutôt intéressante vu les habitudes de Mitrovic depuis le début de la saison. Donc voilà, Mitrovic, premier buteur de Fulham à Everton, cote à 3,20.
Ton autre pari se passe en Espagne, avec notamment le FC Séville qui vient de fracasser le Real Madrid.
Oui, on n'a pas parlé de ce match parce qu'on nous en a parlé sur Twitter. On n'a pas parlé de ce match aujourd'hui parce qu'on a fait voilà une spéciale Ligue 1 et ce qu'on a pu voir du stade, enfin des stades cette semaine. Mais on garde sous la main une spéciale Liga, mais surtout une spéciale Barça-Real, où est-ce qu'ils en sont. Et ça sera sans doute en début de semaine prochaine, vu qu'on aura une double dose avec la Coupe d'Europe. Donc voilà, on a vu ce match, on le garde sous la main et on en parlera sans doute la semaine prochaine. Et du coup, pour parler du FC Séville, donc qui reste quand même sur deux victoires très probantes, face au Real et ensuite face à la dernière fois, c'était, je crois que c'est à Levante où ils ont gagné 6-2 ou un truc comme ça.
Et ouais, ils mettent des buts en ce moment.
Ouais, oui, ils en ont.
Benyeller qui enchaîne, André Silva qui marque des buts. Enfin, je crois qu'ils sont les deux meilleurs buteurs de Liga.
C'est très possible. Ils en ont aussi passé 5, je crois, au Standard de Liège en Coupe d'Europe la semaine dernière. Bref, ils sont sur une très très belle série. Et je me dis que face à Eibar, qui est une équipe qui presse beaucoup, mais qui par contre est une équipe qui du coup, bah, vu qu'elle presse beaucoup, laisse aussi beaucoup d'espace dans le dos. Or, Séville a été très très bon face au Real Madrid, justement à la fois pour jouer dans le dos, mais pour aller très vite en transition, que ce soit sur des ballons récupérés très haut, mais aussi sur des décalages créés très tôt sur le terrain avec un Banega qui a été excellent en première mi-temps. Et ensuite, ça déboule très rapidement quand t'as un côté droit avec Sarabia qui joue intérieur et Jesús Navas sur l'aile. Une fois que le décalage est créé par Banega, ça peut débouler très vite et dédoubler encore plus vite. Et après dans la surface, t'as quand même deux très bons finisseurs avec André Silva et Ben Yedder. Bref, il y a quelque chose qui fonctionne. Et du coup, face à Eibar, qui n'a pas réussi l'année dernière à Pablo Machín, qui a pris 2x4-1 avec son équipe de Gérone, je me dis que Séville, pas forcément pour gagner, mais Séville qui marquerait dans les demi-temps, ça me paraît être quelque chose de jouable et d'imaginable vu la série en cours et vu voilà l'opposition de style entre les deux équipes. Donc Séville qui marque dans les demi-temps face à Eibar sur la pelouse d'Eibar, c'est coté à 3-10 et ça me paraît plutôt intéressant à jouer.
Alors je corrige, Séville n'a pas les deux meilleurs buteurs mais a le meilleur duo, parce qu'André Silva est à 6 buts, Ben Yedder est à 4, donc ça fait 10 buts, et derrière c'est Suarez et Messi qui sont au total à 8, parce que Suarez est à 3 et Messi est à 5. Et d'ailleurs si on parle du Séville de Pablo Machín, il ne faut pas oublier le Christian Stuani qui était un peu son attaquant vedette à Gérone et là qui continue de planter, ouais, qui a 5 buts en 5 journées, qui est l'éternel, tout comme Iago Aspas. Enfin, beaucoup de monde marque en Liga en début de saison.
Ouais, il y a beaucoup de duos aussi, Christophe en parlerait mieux, mais le duo Iago Aspas-Maxi Gomez aussi qui marche très fort du côté du Celta Vigo.
Qui marche très fort. Je passe à mes paris avec des paris peut-être un peu moins. Enfin, il y en a un des deux qui est un peu moins excitant, c'est celui sur, pour reparler un peu de Ligue 1, sur Montpellier-Nîmes.
Oui, c'est vrai qu'il n'est pas excitant.
Alors, j'ai vu récemment une espèce de grande analyse des nuls de Montpellier en Ligue 1 et de l'argent que ça pouvait rapporter. Je crois que c'est le bon tweeto Edu Brigante qui l'avait mis sur Twitter, excellent tweeto, fan de Laurent Baffi, enfin, quelqu'un de très bien. Qui parlait de l'argent qu'il pouvait faire sur les nuls de Montpellier. Et c'est vrai que Montpellier a gagné ce week-end. Ou a fait non match nul d'ailleurs à Caen, je crois, de partout.
Ouais, 2-2. Ouais.
Donc voilà, encore une fois. Mais là, il joue à domicile contre Nîmes, une équipe qui sait bien défendre, même si elle a pris des buts contre le PSG. Et donc là, qui a fait d'ailleurs 0-0 contre Guingamp là, c'est en milieu de semaine. Donc je mise sur le 0-0 à la mi-temps entre Montpellier et Nîmes. C'est à 2,35. Alors peut-être qu'à la fin, il y aura un but et que Delors fera la différence. Mais sur le coup, je pense que c'est plutôt pas mal et ça reprend l'idée que Montpellier est. C'est une équipe encore très difficile à bouger. Je crois que cette année, ils ont encore parmi les meilleures défenses. Là, je suis en train de regarder. Ouais, ouais. C'est la deuxième meilleure défense de Ligue 1 en termes de expected goals encaissés. Ils sont à 6-20 derrière Strasbourg. Donc, ça continue. Et Le deuxième pari, c'est celui sur Sassuolo Milan.
Juste avant, Montpellier-Nîmes, c'est aussi quand même retour d'un derby très très chaud. Donc ça sera à surveiller en termes d'agressivité et de carton. Alors on ne peut pas mettre de pari dessus, mais ça peut être quelque chose d'assez agressif, on va dire, comme match.
Ouais. Voilà. Alors, je dis que Nîmes défendait bien, c'est complètement faux, puisque c'est une des pires défenses de Ligue 1, mais du coup, je pense qu'ils vont essayer de corriger ça, et vu qu'ils vont à Montpellier, ils vont pas forcément ouvrir le jeu. Voilà, c'est mon argument, je retombe sur mes pattes.
Voilà.
Le deuxième match, c'est un match plus excitant, c'est celui entre Sassuolo et l'AC Milan, deux équipes qui nous intéressent beaucoup depuis le début de la saison. Flo, toi, t'as eu l'occasion de voir le Milan de Gattuso plusieurs fois, mais j'ai regardé le Sassuolo de De Zerbi pas mal de fois aussi, et c'est deux équipes qui cherchent à jouer, qui ferment très peu le jeu, qui pratiquent beaucoup de jeux de face et de jeu en une touche de balle. C'est pour ça que là je mise sur le plus de 3,5 buts, c'est à 2,50. Le match est à Sassuolo, hein, c'est Milan qui se déplace. Je pense que ça va être assez ouvert, ça peut être d'ailleurs un des très bons matchs du week-end à regarder. C'est dimanche soir, je crois. Bon, il y aura la Ligue 1 en même temps, mais si vous avez envie de regarder la Serie A et de voir ce que fait Sassuolo, c'est le match, c'est l'occasion de le faire parce que je pense qu'en plus ça va presser des deux côtés et ça risque d'être intéressant de voir comment se sortir du pressing face à des équipes comme ça. 3,5 buts minimum, c'est à 2,50 et je pense que ça correspond un peu au style des deux formations. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter, Florent, ou une anecdote à partager?
Non, mais
est-ce qu'on attend le retour de Christophe de son périple allemand?
Non, on va juste ajouter un petit mot par rapport au pari. Évidemment, si vous voulez vous inscrire et suivre nos paris sur PMU.fr, n'oubliez pas de rentrer le code promo VDB au moment de l'inscription. Alors en ce moment, quand vous arrivez à cet endroit-là de l'inscription, vous avez le code promo sport qui est automatiquement rentré. Remplacez-le par VDB et comme ça vous nous ferez plaisir. Voilà, c'est juste pour vous faire plaisir. Et il y a pas de bonus en plus pour l'instant. Ils viendront peut-être plus tard, ça ne sait pas.
En discussion très très sérieuse dans les arcanes du web.
Et c'est ça. Mais voilà, n'oubliez pas de rentrer le petit code VDB et puis dans la semaine, de toute façon, certains l'ont sans doute vu sur Twitter, il y a eu un petit concours pour gagner des free bets. C'est des concours qui risquent de se répéter, alors je sais pas si ça sera régulier ou si ça arrivera par-ci par-là de temps en temps, parce que si ça se trouve, si on réussit tous nos paris ce week-end, peut-être qu'il y aura pas de free bet à faire gagner parce qu'on aura déjà pris trop d'argent, donc on sait pas trop, mais voilà, c'est quelque chose qui risque de se reproduire, donc si vous voulez y participer, voilà, inscrivez-vous sur PMU.fr, oubliez pas le code VDB et ensuite voilà, suivez-nous sur Twitter, voire peut-être qu'on mettra des concours sur Facebook aussi, ouais, et vous aurez des petits free bets à gagner, voire peut-être plus en termes de cadeaux à venir, on sait pas, mais ça aussi c'est en discussion dans les arcanes du web et des mails.
Et suivez-nous sur toutes les plateformes. Alors on est sur iTunes, on est sur Deezer, on est sur SoundCloud, on est sur Podcast Addict. Le seul truc qui nous manque, et il nous manque encore, c'est Spotify.
Ouais,
alors Spotify, j'ai vu qu'en plus maintenant les artistes pouvaient mettre directement sur la plateforme leur truc, donc on va essayer de se renseigner, de voir si on peut faire ça, mais voilà, suivez-nous, lâchez des coms sur iTunes pour nous faire monter dans les classements, histoire que Vue du Banc se répande et touche le plus de gens possible, voilà, pour que ce soit une grande messe. Merci à vous, merci Flo.
Ben de rien.
On retrouve Christophe dès le prochain épisode.
Voilà, pour parler Liga, et il sera plutôt chaud pour nous parler d'Ernesto Valverde, je pense.
Oui, ouais. Et puis il sera rentré d'un très bon moment, donc il aura un peu de blues et il sera énervé, c'est sûr.
Ouais, donc ce sera parfait pour parler du Barça.
Très belle photo sur le compte Twitter de Vue du Banc Podcast que j'ai mise sans son accord, évidemment. Ciao.
Salut.
Vous pensez avoir tout compris ? C'est le moment de parier sur PMU.fr, le numéro 1 du pari.